premier dimanche de l'année, nous allons nous plonger dans la parole de Dieu et nous avons bien raison de toujours commencer par là et de la mettre au centre, au cœur de nos existences. Et nous allons faire une lecture dans la deuxième épître de Pierre. Pierre, où nous allons lire dans le chapitre 3, à partir du verset 5. De Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Où il est dit « Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année. Et il y a toujours, dans un début d'année, quelque chose qui nous semble nouveau. Il y a toujours quelque chose qui nous fait sentir l'odeur du nouveau. Et d'ailleurs, que nous fêtions l'année ou pas, que nous ayons des activités de fête ou pas, nous avons tous le sentiment que nous entrons dans une chose nouvelle. Le 1er janvier, on se rend compte qu'on change la façon d'écrire la date. On n'écrit plus 21, on n'écrit plus 2021, mais on écrit 2022. Ça va changer notre façon d'écrire nos documents. Le 1er janvier, très souvent, pratiquement chaque année, il y a tout un ensemble de lois qui changent, qui entrent en vigueur. On change les tarifs de certaines choses, on indexe des salaires, on intègre des nouvelles obligations dans les lois ou des nouvelles interdictions. Et au 1er janvier, nous avons tous quelque part le sentiment que quelque chose de nouveau arrive. Et le sentiment que nous revenons à zéro. Et que nous entrons dans quelque chose où nous savons que nous allons avoir 365 jours qui vont être là et on va pouvoir les occuper d'une nouvelle façon, on va pouvoir s'impliquer peut-être dans des nouvelles choses. On sait aussi, à chaque fois qu'on entre dans une nouvelle année, on sait aussi qu'un chiffre s'ajoutera à notre âge et que donc il va se passer quelque chose au cours de cette année. Et donc il y a un sentiment d'entrain, un sentiment d'enthousiasme souvent qui nous remplit de le fait d'être dans une nouvelle année. Et indépendamment de la nouvelle année, les hommes cherchent du nouveau. Nous aimons bien le nouveau. Hein, nous aimons bien que quelque chose de nouveau vienne. On n'aime pas tout le temps la même chose. Hein, on aime bien acheter des nouveaux vêtements, on voudrait bien des nouvelles circonstances, des nouveaux contextes. Enfin, c'est quelque chose qui est pour nous assez commun, de souhaiter le nouveau, de croire au nouveau ou d'être enthousiaste vis-à-vis du nouveau. Pourtant, l'Ecclésiaste, dans la parole de Dieu, parle de cette croyance du nouveau. Il parle de cette conviction que l'homme a que quelque chose va être nouveau. Et il pose un regard assez dur, en fait, l'Ecclésiaste, sur cette conviction, là, puisqu'il dit dans Ecclésiaste, « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Ça peut décevoir nos espérances. Et il dit, « S'il est une chose dont on dise, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. » On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront plus tard. Ainsi, l'Ecclésiaste, en réfléchissant et en observant le monde, on sait, il dit dans l'Ecclésiaste qu'il a donné tout ce qu'il avait, toutes ses pensées, toute son énergie à penser le monde. Il fait le constat qu'en réalité, même si sur Terre, dans les choses des hommes, même s'il y a une apparence de nouveauté, rien n'est jamais nouveau. Et tout est toujours quelque chose qui revient du passé. Rien n'est jamais nouveau, ce qui a été, c'est ce qui sera. Les choses que nous avons connues reviendront et elles recommenceront. Il y aura toujours des phénomènes naturels, le monde va toujours fonctionner, il y aura des crises financières, il y aura toujours des gens qui se disputent, il y aura toujours des difficultés politiques, il y aura toujours des problèmes de se bagarrer pour améliorer l'économie. Il semble qu'il n'y ait en fait rien de nouveau. Rien de nouveau, ce qui a été fait, c'est ce qui fera, c'est ce qui sera fait. En d'autres termes, les hommes feront toujours ce qu'ils font. Ils le feront parce que leur cœur restera toujours le même. Le cœur de l'homme sera toujours le même. Le cœur de l'homme recherchera toujours les mêmes choses. Le cœur de l'homme recherchera la gloire, l'argent, le plaisir, mais aussi le cœur de l'homme produira de la sympathie, de la solidarité, des réjouissances, du partage. Ce sont des choses positives, mais encore une fois, ça n'a rien de nouveau dans la Bible. Ce n'est que la répétition de ce qui a déjà été. Ce texte nous parle aussi, dans Ecclésiaste, de la raison pour laquelle, en fait, il n'y a rien de nouveau, c'est que nous oublions les choses anciennes. Et donc, nous croyons toujours qu'une chose débarque et qu'elle est nouvelle. Premièrement, parce que notre mémoire est courte, mais aussi parce que notre vie est courte, et que nous avons un sentiment de surplomber toute chose de notre âge. Des gens comme Jean-Paul, comme Jean-Pierre, ils ont le sentiment d'avoir tout vu, d'avoir tout vécu. Ils se disent, ben oui, on connaît le monde. En fait, notre vie est tellement courte qu'en réalité, nous n'avons pas vu grand-chose. Et que les choses qui se sont passées en 1912, ben, on n'était pas là. Et en 1910, même chose. Et donc, il y a le fait que notre mémoire est courte, que nous oublions les choses, et il y a le fait que notre vie est courte. Les choses qui ont été tombent dans l'oubli, et elles ne sont plus, elles ne passent plus dans l'idée des humains. Le philosophe Hegel a dit, au sujet de l'histoire et au sujet de du passage du temps, il a dit « L'expérience et l'histoire nous enseignent que les peuples et les gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire. » Donc, l'histoire nous apprend que l'homme n'a jamais rien appris de l'histoire. Puisque les erreurs que les hommes commettaient avant, ils les commettent encore. Les fonctionnements qui ont conduit les hommes dans des impasses, quel que soit le domaine, que ce soit des impasses familiales, sociétales, on les connaît, mais on les recommence toujours. Les choses qui ont fragilisé notre existence, nous les connaissons, mais elles reviennent toujours. Ainsi, c'est comme si l'histoire se déroulait sans cesse. Et plutôt que d'être réellement linéaire, il y a quelque chose de cyclique qui fait que les choses reviennent tout le temps. Et comme enfants de Dieu, nous ne devons donc pas, ou ce ne serait pas le plus approprié, que nous fondions toute notre espérance sur l'année nouvelle. En se disant, cette année-ci, elle va tout casser. Et là, on va avoir du vrai nouveau. Ça n'a pas beaucoup de sens pour nous, enfants de Dieu. Ce qui aurait plus de sens pour nous, ou ce qui a plus de sens pour nous, c'est que nous puissions nous intéresser aux choses vraiment nouvelles que Dieu va faire et que Dieu va créer. Et dans le texte que nous avons lu de 2 Pierre, chapitre 3, il nous est dit « Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et ça, ce sera vraiment du nouveau. Et ça, ce sera réellement ce que Dieu va faire de nouveau. Nous attendons des nouveaux cieux et nous attendons une nouvelle terre où la justice habitera. Il y aura toujours une année nouvelle. Il y aura toujours des jours nouveaux. Il y aura toujours des nouveaux mois. Mais surtout, pour nous, enfants de Dieu, ce qui est important, c'est que Dieu a promis une nouvelle création. Il a promis de nouveaux cieux, il a promis une nouvelle terre. C'est un fait qui nous est annoncé dans la Bible et indépendamment de la question de ce qui aura lieu avant, après, nous savons qu'en finalité, l'Apocalypse nous montre qu'en finalité, le plan de Dieu, c'est d'amener un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il va régénérer la création de Dieu et il va faire un nouveau monde dans lequel la puissance du péché aura été anéantie et dans lequel la corruption sera détruite. C'est un monde dans lequel la justice habitera. Voilà une vraie nouveauté qui peut nous motiver. Du vrai nouveau. On pourrait dire du frais. On aime ce qui est frais, on n'aime pas ce qui est repassé. On aime le frais. Un monde frais que Dieu va nous donner. Dans Apocalypse 21, verset 1, il est dit « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. » Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Il y aura donc un renouvellement de toutes choses. Apocalypse dit aussi, c'est Dieu qui dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. En fait, créer du nouveau, c'est la spécialité de Dieu. Nous ne sommes pas si bons que ça pour ça. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes ne font rien de nouveau. Les hommes innovent, les hommes créent des nouvelles choses, des nouvelles machines, des nouvelles techniques, des nouvelles pédagogies. Bien sûr que l'homme crée quelque chose. Mais quelque part, il y a dans ce que l'homme crée de nouveau, le problème que c'est toujours inabouti. Un. Et deux, c'est toujours marqué du péché. Quel que soit ce que l'homme fait sur terre, c'est toujours corrompu d'avance. Et d'ailleurs, en sciences sociales, on étudie des phénomènes qui sont tout un ensemble de phénomènes dans lesquels on crée quelque chose qui finalement fait pire que ce pour quoi il a été créé. D'accord ? Hein, donc même par exemple, aujourd'hui, il y a des films qui mettent ça en lumière. Hein, quand une personne crée un robot et puis finalement le robot se retourne contre elle et commence à faire du mal à tout le monde. Ça c'est dans la technologie. Mais ça c'est l'homme. L'homme ne fait que créer des dispositifs qui un beau matin se retourne contre lui. Mais Dieu, lui, peut créer du réellement nouveau, un nouveau ciel, une nouvelle terre. On pourrait parler, la Bible parle d'un renouvellement de la terre et des cieux. On pourrait dire que Dieu, à la fin des temps, va apporter une rénovation en profondeur de ce monde. Il va apporter une rénovation de ce monde qui va être profonde. La Bible parle d'un renouvellement du monde, mais aussi d'une sanctification du monde. Les cieux et la terre vont être renouvelés, sanctifiés. La Bible utilise aussi l'expression « le renouvellement de toutes choses ». Nous attendons le renouvellement de toutes choses. De la même façon que Dieu a créé les cieux et la terre qui étaient bons, et que ces cieux, cette terre a été détruite par le péché, Dieu va ramener les choses à son plan premier en créant un nouveau ciel, une nouvelle terre dans laquelle la justice habitera. Cela nous est rappelé dans plusieurs textes de la Bible où il est dit par exemple « Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Une fois encore » indique le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est donc le passage et la fin du périssable et la création de l'impérissable, du nouveau impérissable. Dans Ésaïe, il est aussi dit « Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi. » Dieu va créer de nouvelles choses, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, les conséquences du péché seront détruites. La mort n'existera plus, la maladie non plus, la dégénérescence non plus, la malédiction aussi n'existera plus. Dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, les rachetés, ceux qui seront devenus enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, jouiront de la vie éternelle et seront en présence directe de Dieu. Ils seront dans l'illumination directe de la présence de Dieu. Ce temps arrivera après le millénium. Quel que soit le moment où on le place, après le millénium, à la fin de toute chose, arrivera cette nouvelle création. Cet événement aura lieu après le retour de Jésus sur terre et après le jugement dernier. Après que Dieu ait jugé Satan, ses anges et tous les incroyants, tous ceux qui ne se seront pas repentis de leurs péchés, tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ pour être sauvés, eh bien Dieu créera ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Il y aura un renouvellement de la création. Et la Bible nous parle d'un renouvellement qui sera un renouvellement physique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à insister, puisque ce n'est pas l'idée que nous avons en général. Ce qui fait que les gens disent, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel ? Mais on ne va pas être sur un nuage. La Bible parle d'un renouvellement qui sera mixte, c'est-à-dire fait d'une réalité en même temps physique, mais en même temps d'une réalité qui intégrera le spirituel d'une façon qu'il n'est pas vécu aujourd'hui. Une vie mixte. La Bible nous parle dans ce monde d'une réelle vie physique restaurée. D'ailleurs, les textes qui parlent de ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, parlent d'économie, d'agriculture, de questions sociopolitiques. Donc ce sera un monde qui aura des dimensions qui ressemblent aux nôtres, mais qui sera complètement renouvelé. Alors, il y a un débat théologique qui est la question de savoir, est-ce que ce monde sera un monde complètement nouveau, ou est-ce que ce sera le même monde en mieux ? Vous voyez l'idée. Alors, c'est un débat qui existe, on peut discuter si on a que ça à faire. Mais, en réalité, si on s'intéresse à certains versets bibliques, c'est vraiment un peu l'idée d'une transfiguration du monde, d'une glorification avec une sanctification du monde. C'est comme si le même monde allait changer d'état, et allait passer par la purification du feu de Dieu, pour entrer dans un état nouveau, un état glorifié. Alors si on veut avoir une idée de ce que serait cette transition, on peut penser simplement au corps de Jésus, à Jésus. Quand il est apparu aux disciples glorifiés, il n'était plus dans son corps physique, il n'était plus dans sa réalité charnelle, mais il gardait les caractéristiques d'un corps. Il dit, mets tes mains dans mes plaies. Et donc, il est avec quelque chose qui est relatif à son corps terrestre, mais complètement glorifié, notamment avec le fait qu'il n'y ait plus les contraintes physiques n'existent plus. Vous voyez ? Donc ça, c'est le nouveau monde que Dieu réserve. Et celui dans lequel nous aurons à vivre en tant qu'enfants de Dieu. Le texte de 2 Pierre parle du retour du Seigneur et il dit que ça impliquera une destruction du monde passé. Et c'est ça qui crée un peu la confusion dans le débat. C'est qu'en fait, il utilise des mots qui font penser que le monde va être détruit. Mais bon, détruit, ça peut aussi dire passer dans son état actuel pour rentrer dans un nouvel état. Jésus a parlé de cette fin du monde et de ce renouvellement de toutes choses. Il en a parlé, mais c'est dans une parole que souvent on oublie parce qu'on la spiritualise et qu'on oublie que c'est une vraie parole. Par exemple, il a dit dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voilà. Donc le ciel et ce n'est pas une image en fait quand Jésus dit ça. « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Jésus dit ça dans Matthieu 24, après avoir parlé de tous les événements qui vont se dérouler pendant la fin des temps jusqu'à la fin des fins. Il parle dans ce texte de Matthieu 24 de tout un ensemble de choses, et puis il clôture par cette grande phrase qui met l'autorité sur tout ce qu'il a dit, car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dans ce texte, il parle de la détresse qui va avoir lieu sur terre, la grande tribulation, de l'apparition des faux Christ, des faux Messies. Il parle du retour glorieux de Jésus-Christ, il parle du rassemblement des élus, et ensuite il clôture en disant « Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Par rapport à cette réalité du nouveau ciel, la nouvelle terre que Dieu réserve et qui sera vraiment nouvelle et vers laquelle nous sommes appelés comme enfants de Dieu à porter le regard. Eh bien, en réalité, Dieu a déjà créé de nouvelles choses en nous. On pourrait dire que Dieu a déjà configuré le croyant pour ce nouveau monde. Dieu a déjà créé quelque chose de nouveau en nous. Et ce qui fait dire ça, notamment, c'est le fait que régénération, le mot régénération dans la Bible, renvoie à la fois à la régénération du monde, donc le renouvellement de toute chose, mais à la fois à notre régénération, à nous personnellement, à notre nouvelle naissance. Donc quand on dit que nous sommes nés de nouveau, quand on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles, bien cela veut dire que Dieu a déjà fait de nous spirituellement les nouvelles créatures que nous avons besoin d'être pour vivre dans ce royaume, dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Alors c'est spirituel parce que nous sommes encore dans les contraintes du corps et nous sommes encore dans les contraintes de la chair, ce qui implique qu'il y a encore un combat. Donc l'être nouveau, l'être spirituel est déjà en nous. Nous sommes déjà des nouvelles créatures, nous avons déjà une nouvelle nature, nous avons déjà en nous la vie éternelle, nous sommes déjà des êtres qui ont en eux la destinée éternelle auprès de Dieu. C'est d'ailleurs Jésus dira, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui jusque dans l'éternité. Donc il y a déjà pour le croyant quelque chose qui le prolonge pour cet autre monde. Mais ce quelque chose est contraint par le péché encore, par le corps, par la faute, par les tentations, par les contraintes aussi de ce monde, de la vie en société dans laquelle on est aussi dans un monde de violence, de difficultés. Et donc, quelque part, ça ne se manifeste pas suffisamment puisque nous sommes encore dans un monde. Mais il reste que Dieu nous a déjà paramétré pour cette nouvelle création. C'est comme si Dieu a déjà mis un certain nombre de réglages en nous, en faisant de nous des êtres nouveaux pour ce nouveau ciel, cette nouvelle terre où la justice habitera. La Bible parle beaucoup de l'homme nouveau. Elle nous dit que l'homme nouveau est créé par Dieu selon la justice et la sainteté. L'homme nouveau qui est en nous. Qu'il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, qu'il marche dans l'amour, il marche dans la lumière, l'homme nouveau, qu'il est créé parfait dans l'amour, qu'il est fortifié. Hein, donc, si notre corps extérieur se détériore, notre être intérieur, lui, se fortifie, se renouvelle. Donc, notre être intérieur possède déjà tout un ensemble de choses qui sont censées manifester cet état futur dans lequel nous aurons à vivre. Ainsi, le croyant est appelé dès maintenant à s'efforcer quelque part, de laisser le nouveau de Dieu advenir en lui, de laisser le nouveau de Dieu émerger en lui. Ce nouveau que Dieu nous a créé, a créé en nous à la conversion, eh bien, nous sommes appelés à le laisser s'exprimer. Notamment, on parle des fruits de l'esprit, eh bien, c'est une expression de ce nouveau de Dieu. De cette nouvelle nature, du Saint-Esprit qui est en nous, qui exprime des choses nouvelles, des choses qui ne sont pas purement terrestres. Nous sommes appelés, dès maintenant, à nous battre pour laisser l'Esprit de Dieu nous dominer, laisser dominer en nous. Et ainsi qu'il est écrit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc il y a cette injonction, cet encouragement à laisser le Saint-Esprit produire en nous les fruits nouveaux, les bons fruits D'ailleurs, la Bible parle des œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont les œuvres de la chair, les œuvres qui n'ont, qui, les vieilles œuvres, ce qui doit appartenir à notre passé. Et nous sommes appelés à laisser ce que cet homme nouveau que Dieu a mis en nous, cette nouvelle créature que nous sommes, exprimer les choses qui viennent directement de Dieu. Les vertus divines que Dieu dépose en nous par son esprit, nous sommes appelés à les laisser s'exprimer. Dans une certaine situation, nous pouvons nous retrouver dans des situations compliquées et voir que Dieu va susciter en nous une patience qui vienne de l'Esprit de Dieu. Une patience suscitée justement par l'Esprit de Dieu. Nous pouvons parfois nous retrouver dans des situations où nous allons nous retrouver capables d'écraser notre ego. Notre moi, notre volonté, notre orgueil, pour poser des actes où nous allons laisser les intérêts des autres se mettre en avant. Mais toutes des situations dans lesquelles nous pouvons voir que Dieu manifeste en nous quelque chose qui ne vient pas directement de nous, mais que c'est cet être nouveau qui se manifeste au travers de nous. Pensons, par exemple, à Daniel dans la fosse aux lions. Pensons à tous ces hommes de la Bible qui ont fait tout un ensemble de choses complètement, qui demandaient une force surhumaine, un courage surhumain. Eh bien, Dieu le fait pour le croyant dès maintenant. Bien sûr, le croyant reste soumis à toutes ces contraintes de sa chair, du péché, mais déjà, l'homme nouveau est en nous, par l'Esprit de Dieu. Et il peut s'exprimer dans la réalité. Dieu aussi, par cet homme nouveau, crée en nous une vision divine. Il insuffle en nous une vision divine pour les choses devant lesquelles nous sommes. Vous savez que, comme croyants, nous avons besoin de cette vision, de ce renouvellement de l'intelligence de Dieu, pour avancer, n'est-ce pas, pour faire des choix. Eh bien, Dieu l'accomplit en nous. Cet homme nouveau, c'est aussi un homme qui est en nous et qui soupire après le monde à venir. La Bible dit dans Apocalypse 22, 17, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. » Il y a en nous, l'homme nouveau qui est en nous, il soupire après la venue du Seigneur. L'être nouveau qui est en nous, il crie, « Que ton règne vienne, que ton règne vienne. » Il souhaite le retour de Jésus. Il souhaite l'avènement du Seigneur. Il souhaite ce nouveau monde. Il souhaite ce monde où la justice habitera. Mais aussi, l'être nouveau qui est en nous peut nous conduire dans des inspirations qui viennent directement de Dieu, qui émanent directement de l'Esprit de Dieu en nous. Nous pouvons avoir comme ça des idées que nous avons l'impression qui viennent de nous, mais en réalité qui sont suscitées par l'Esprit de Dieu. Pouvons avoir, par exemple, l'envie de travailler à la réconciliation entre deux personnes. On ne sait pas pourquoi, mais on se sent comme poussé à poser cet acte-là et on va aller vers deux personnes pour essayer de les réconcilier. Et bien, il y a donc quelque chose là. L'Esprit, en fait, quand on dit que le Saint-Esprit habite en nous, c'est un fait puissant, en fait. Que nous, on dit ça comme une banalité. Oui, l'Esprit de Dieu habite en moi, comme si c'était... le perroquet est dans sa cage, quoi. Non, c'est le Saint-Esprit habite vraiment en nous et il suscite tout un ensemble de choses en nous. Il faut encore que nous puissions accéder à la gloire, mais ce n'est pas pour maintenant. Il faut encore que nous entrions dans notre corps glorifié pour pouvoir accéder à ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Mais aussi que pour que la création elle-même entre dans sa dimension glorifiée, renouvelée, sa nouvelle dimension. Mais avant cela, nous avons à être attentifs à plusieurs choses. Au regard de ce nouveau ciel, cette nouvelle terre que Dieu crée. Quatre choses que nous citerons aujourd'hui, qui doivent nous amener à être attentifs dans notre vie, dans ce monde, en attendant ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Premièrement, Ne pas nous laisser leurrer par ce monde-ci. Ne pas nous laisser leurrer par ce monde-ci. Pour commencer, la perspective de la nouvelle création doit nous inciter à ne pas nous laisser tromper par ce monde-ci, car c'est un monde qui passe. C'est un monde qui passe et c'est un monde qui est fragile. L'Ecclésiaste disait aussi « vanité des vanités, tout est vanité ». Il n'y a rien à faire, nous sommes dans un monde vain. La Bible dit que la création a été soumise à la vanité. C'est Romains 8, 20. Dans Romains 8, 20, il est dit « la création a été soumise à la vanité ». Ça signifie que la création a été soumise aux conséquences du péché. Mais quand on dit la création, il faut bien comprendre que c'est toute la création. C'est les humains, mais c'est aussi la nature. Tout le cosmos entier a été soumis à la vanité à cause des conséquences du péché. C'est un monde qui est soumis au désordre, qui est soumis à la destruction, qui est soumis à la douleur, qui est soumis à la malédiction. C'est un monde souillé, c'est un monde sali, c'est un monde instable, c'est un monde cassé, c'est un monde brisé, c'est un monde fragile, c'est un monde vain. Le péché a déréglé tout dans ce monde, dans nos personnes et dans ce cosmos, d'où la nécessité d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Mais donc nous ne devons pas nous laisser leurrer par ce monde-ci. Parce que c'est un monde qui peut nous donner l'impression qu'il est grand, qu'il est beau et qu'il est éternel. Il y a la plupart des gens croient que ce monde est éternel. C'est un monde de belles apparences. Un monde dans lequel on construit des énormes buildings, des grands bâtiments, des prouesses du génie civil. Ça a l'air grand, ça a l'air beau, c'est intelligent, c'est beau, ça a la grandeur de l'homme. Oh, la tour de Babel, wow, les hommes sont magnifiques. C'est un monde dans lequel on construit des grands systèmes économiques, hein, en se disant c'est des systèmes qui vont marcher et qui vont être des remèdes à la crise et qui vont aider tout le monde à vivre bien. On a des idées, on va réussir à ce que tout le monde se porte bien. C'est un monde qui est transporté par des valeurs humanistes. Des belles valeurs, l'entente, l'acceptation. Et donc ça donne l'impression que c'est du solide, que ça va durer, qu'on va y arriver, ça va durer pour toujours, on va réussir à se maintenir. On est bons, nous les humains, pour se maintenir. C'est un monde dans lequel on voit de plus en plus de stabilité internationale. Les pays se mettent ensemble, on va faire l'Union européenne, on va faire l'Union ceci, on va unir nos armées. Et donc ça donne une impression comme ça de stabilité. Et soyons clairs, par exemple, nous qui vivons en Belgique, nous vivons dans un pays stable. Nous vivons dans un pays en paix. Nous vivons dans un système économique stable. Mais malgré ces apparences-là, dans le fond du fond, c'est un monde qui est voué à aller à la poubelle. C'est un monde qui est voué à aller à la poubelle. Nous avons tout un ensemble de gens qui ont des philosophies intéressantes et qui semblent répondre à toutes les questions existentielles. Et donc on se dit, voilà, mais lui, il a un grand philosophe qui dit, voilà, il a une idée sur la mort, il dit que quand on est mort, il ne se passe plus rien, et que on est... Et donc on pourrait se dire, oh, c'est intéressant, donc en fait, on a des réponses à tout. Mais non, c'est un monde vain, et c'est un monde qui est appelé à passer, et à être détruit. Et ça doit avoir un impact sur notre façon de vivre, en fait. Nous devons vivre avec le regard tourné vers ailleurs. Et donc nous devons ne pas nous laisser leurrer, mais nous devons nous intéresser avec discipline, avec attention, avec persévérance, avec passion. Nous devons nous intéresser aux choses éternelles, aux choses qui durent. 1 Jean 2, 17 dit « Et le monde passe », c'est la même expression, « le monde passe et sa convoitise aussi ». Donc le monde, dans ce qu'il est, et toutes les convoitises qu'il y a dans le monde vont passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous avons donc à ne pas nous laisser leurrer, mais à porter nos regards vers la volonté de Dieu, vers les choses qu'il nous dit, vers ce qu'il dit être éternel, comme sa parole. « Mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. » Deuxièmement, Nous devons faire attention de ne pas nous endormir dans ce monde-ci. De ne pas nous endormir. C'est dans Luc 21, 34 à 36 où il est dit « Or, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès et par l'ivresse et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, comme un filet, il viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Jésus nous invite à faire attention à ce que nos cœurs ne s'apesantissent pas, c'est-à-dire à ce que nos cœurs ne deviennent pas spirituellement lourds, insensibles aux choses spirituelles, insensibles aux choses d'en haut. Et Jésus utilise une expression qui est censée quand même nous faire intuitionner ce que c'est de s'endormir. C'est lorsque il dit « Ne vous laissez pas endormir par les excès, par l'ivresse et par les soucis de la vie. » C'est-à-dire que parfois, comme croyants, on peut tellement être pris par les choses de ce monde qu'on en oublie en fait les réalités éternelles, qu'on les perd de vue. Soit par les plaisirs de ce monde, ils sont légions, on en a là, c'est bien, c'est succulent, il y a de la bonne nourriture, des bons repas, des belles voitures, on se fait plaisir, et on est tellement impliqué dans le monde qu'on est là que, le jour du Seigneur, on l'oublie. Et le monde à venir, on l'oublie. Ou alors aussi, on peut être tellement pris par les soucis de ce monde. On est soucieux. Oh, comment est-ce que je vais faire pour payer ça et pour payer ça? Et comment est-ce qu'on va gérer telle situation? Et on est complètement pris dans le monde et on n'a pas nos lampes allumées par rapport au jour du Seigneur qui vient et à cette nouvelle réalité qui vient. La Bible nous invite donc à rester spirituellement éveillés, à rester réveillés. Rester réveillé, c'est-à-dire maintenir une vie de prière et combattre tous les obstacles. On a parlé tout à l'heure du fait que nous sommes dans un corps charnel. Eh bien, être dans un corps charnel, ça veut dire que la chair exerce son impact sur nous. Et c'est la chair qui nous dit de ne pas prier. C'est la chair qui nous dit que de ne pas nous engager dans les choses de Dieu. Nous devons donc combattre pour rester alerte. Rester à l'écoute de la parole de Dieu, rester en bonne santé spirituelle, rester à l'écoute de ce qui se passe dans le monde pour ne pas nous laisser leurrer. Nous devons ensuite porter un regard sur le monde à venir. Porter un regard sur le monde à venir, sur le monde qui vient. Et le texte de 2 Pierre 3 que nous avons lu dit « Puisque toutes choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre sainteté ?» Puisque toute chose doit se dissoudre. Le verset 14 dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. » Ainsi, cette réalité à venir, elle nous conduit à avoir certaines attitudes maintenant et à regarder le monde à venir. Enfin, quatrièmement, nous sommes appelés aussi à investir dans les choses qui comptent réellement. Jésus a dit, on en parle très rarement, mais Jésus a dit, faites-vous un trésor dans le ciel. Donc quand on dit qu'on n'emmène jamais rien au ciel, c'est peut-être pas forcément vrai. Il a dit au sujet de ceux qui donnent des aumônes, faites-vous un trésor dans le ciel. Il y a donc des actes que nous ne devons pas négliger de poser parce que ce sont des actes à une portée éternelle. Quand on parle dans l'Apocalypse, on dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Nous ne devons donc pas être négligents de toutes ces choses qui nous suivront, de toutes ces choses qui vont nous accompagner dans la réalité, les choses que nous avons faites pour le Seigneur, notre engagement, notre consécration, tout ce que nous aurons offert aux autres. Eh bien, ce sont des choses qui nous suivront dans le monde à venir. Ainsi, bonne année à chacun. Et bonne année dans le regard des choses vraiment nouvelles. Bonne année, non pas pour s'offrir à 2022, mais bonne année en n'oubliant pas le monde nouveau qui vient. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. et en portant nos regards dessus, et en agissant, en tenant compte de cet avenir glorieux que Dieu nous réserve. Amen. Seigneur, nous avons besoin de nous plonger parfois dans ces réalités eschatologiques. Elles ne sont pas toujours faciles à comprendre, Seigneur. Elles nous semblent souvent très loin, très obscures, très loin de nos réalités aussi. Mais malgré tout, c'est ta parole et donc nous voulons la prendre au sérieux. Seigneur, nous sommes conscients qu'il y a parfois des voiles dans nos intelligences qui nous empêchent de comprendre pleinement ce que ta parole nous dit. Nous te prions de nous éclairer toi-même à l'intérieur de nos cœurs. Nous te prions de nous aider à mener des vies qui soient tournées vers le nouveau ciel, la nouvelle terre, vers l'éternité, vers la vie éternelle que tu prévois pour nous, avec tout ce qu'elle a. Mais en attendant, Seigneur, ce temps de gloire où tu vas renouveler toutes choses, où tu vas nous mettre dans un corps glorifié, en attendant cela, nous voulons te prier de nous aider sur terre, Seigneur, à laisser l'homme nouveau en nous s'exprimer, à renoncer à l'homme livré à lui-même, à l'homme ancien, et à laisser l'homme nouveau, l'être nouveau, la nouvelle nature que tu nous as donnée, s'exprimer. Aide-nous, Seigneur, aussi à vivre sans nous laisser leurrer par ce monde, en nous donnant pas complètement à ce monde qui est passager, à ses convoitises. Mais Seigneur, aide-nous à être un peuple qui porte son regard sur l'éternité, sur les choses éternelles. Aide-nous à mener notre vie en tenant compte de ces réalités. Parce que le monde passe, et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que cela soit notre partage à tous en cette nouvelle année. Au nom de Jésus. Amen.